Bienvenue sur Néo Travail, le podcast qui explore le futur du travail écoféministe. Nous repensons le rôle et la place des femmes dans la sphère professionnelle. Nous donnons la parole à des femmes qui travaillent et entreprennent en prenant soin des autres et de la planète.
Nous sommes Hélène et Laetitia, deux exploratrices écoféministes. Avec nos invités, on parle des luttes contre les discriminations et les inégalités, de comment travailler moins et mieux. Nous repensons le pouvoir et le leadership, le capitalisme et le patriarcat, et mettons en lumière les femmes qui construisent une société plus écologique, solidaire et inclusive. Bonne écoute!
Il arrive parfois que l'on aime profondément son métier, mais qu'un jour, on sente un décalage entre notre job et nos valeurs, ou bien avec notre vision du monde. Et quand ça nous tombe dessus, ce n'est jamais simple de savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut rester à son poste, mais perdre du sens au travail? Est-ce qu'il faut démissionner et se reconvertir, mais pour faire quoi? Est-ce qu'il faut réinventer son métier, mais pour ça, comment on s'y prend? Pour cet épisode, on a discuté avec Isabelle Huyn, ingénieure engagée pour la transition écologique. Isabelle, elle est ingénieure mécanique de formation. Elle a décidé, il y a quelques années, de donner à l'ingénierie des perspectives en accord avec ses valeurs et en accord avec les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, elle transmet, elle forme, elle sensibilise pour mettre en avant de nouvelles voies. Avec elle, on a surtout parlé d'ingénierie positive, de transition professionnelle et de la place des femmes dans un métier majoritairement masculin. Isabelle, elle nous a livré ses conseils pour oser prendre la parole et développer sa capacité d'agir dans un univers où les femmes sont encore trop peu visibles. Bonne écoute! Bonjour Isabelle, on est ravis de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour parler de ton parcours d'ingénieur engagé pour la transition écologique. Donc merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour les filles, ravie.
Merci. Alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait bien que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites et que tu nous expliques quel est ton métier aujourd'hui ou ton activité professionnelle.
Ok, alors du coup pour parler de moi, je dirais de base je suis de formation ingénieur, si on veut. Donc moi je m'intéresse toujours à comment on conçoit des produits, c'est une question qui m'a toujours bien branchée. Et alors on va dire j'ai quitté mon métier d'ingénieur, ça va faire 6 ans je pense, pour réfléchir à cette question de comment on fait de l'ingénierie plus responsable, que j'ai longtemps appelé de l'ingénierie positive. Et donc maintenant, je regarde cette question, donc je suis partie rencontrer beaucoup d'acteurs qui font ça. Et là, depuis mon retour en France, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on amène ça dans les écoles d'ingénieurs, auprès d'entreprises, et on aide les personnes à faire de l'ingénierie positive. Et ce qui m'a amené aussi récemment à rejoindre le projet de l'Institut Transition en tant que cofondatrice, pour justement aider les personnes à mettre leurs compétences, alors qu'elles soient techniques, ingénieures ou autres, au service de la transition écologique et solidaire.
Ok, top. Et du coup, par rapport à l'ingénierie positive, donc tu as un tout petit peu parlé, c'était dans le cadre du coup de la Clavette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas?
Yes. Alors la Clavette, on va dire, c'était mon premier projet entrepreneurial, mes premiers pas même, si on veut, engagés vers la transition. Et donc avec la Clavette, j'étais partie d'une question qui était très personnelle, de se dire, ok, ben moi je suis ingé, j'aimerais bien continuer à concevoir des produits, ça correspond à quoi faire ça, mais dans le cadre d'un projet plus responsable. Et petit à petit, ce projet qui était une question personnelle s'est transformé en projet entrepreneurial, parce que des anciens collègues ou des amis m'ont dit, mais moi aussi je suis assez intéressée par cette question. Et ça m'a amené à partir en voyage en Asie Sud-Est, en Amérique Latine, dans différentes villes d'Europe, pour aller à la rencontre d'acteurs qui font ça. Alors quand je dis acteurs, ça va être des ingénieurs, mais aussi des techniciens, des entrepreneurs, des fondations, des associations, qui étaient toujours animés par faire des produits qui servent à aider les personnes ou la planète de façon générale. Et en fait, j'avais tourné des documentaires à l'époque. Donc c'est comme ça que des fois, certaines personnes m'ont connu. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça encore ce matin, c'était marrant. Et donc j'avais tourné des documentaires pour justement mettre en avant ces projets. Et je faisais une petite partie où moi aussi, je passais face caméra pour dire qu'est-ce que j'en pensais, qu'est-ce qui était intéressant dans ce projet. Et c'est ça qui m'a aidé à avoir de la légitimité pour amener ces sujets, pour devenir professeur en école d'ingénieur ou pour partager tout ça, quoi, de façon générale.
Ok, chouette. Donc du coup, aujourd'hui, tu dispenses des cours en école d'ingé et tu as parlé aussi de l'Institut Transition. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas non plus le projet?
Yes, en fait, avec l'Institut Transition, donc moi, de mon côté, avec la Clavette, j'avais gagné un petit peu de visibilité et j'étais souvent contactée par des étudiants ou surtout des ingénieurs qui étaient en fonction et qui me disaient, bah, moi, j'aimerais bien travailler sur des projets comme vous montrez ou en tout cas mettre du sens dans le travail. C'était vraiment le mot-clé qui revenait souvent. Et moi, j'étais assez frustrée puisque, alors bon, déjà, il n'y a pas non plus une offre pléthorique de jobs qui correspond à ces cases. Mais en plus, à côté de ça, je me disais tout le temps, c'est dommage parce qu'au-delà de la volonté, juste un petit peu de formation ferait en sorte que tu sois totalement efficace pour contribuer à ces projets. Et en gros, cette formation, pour moi, c'est l'important, c'est de donner en gros un peu les bases de la culture générale de la transition. C'est de les aider aussi à creuser qu'est-ce qui en eux les anime, comment est-ce que quelle place prendre. Parce qu'en gros, souvent, les gens qui démarrent leur transition pro vers quelque chose qui a plus de sens, très souvent, c'est des gens avec de la très bonne volonté et qui disent, ben, moi, je peux tous les sujets m'intéressent, je peux un peu tout faire, bosser sur tout. Et l'angle que j'ai souvent, c'est de dire, ben, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui t'anime vraiment et qu'est-ce que tu vas creuser. Parce que quand tu vas être éreinté, quand tu vas pas être motivé, quand ça va devenir compliqué, ben, va bien falloir que tu te raccroches au fait de te dire, mais ce sujet fait tellement sens pour moi que je lâche rien. Et en gros, donc moi j'avais eu ce constat, et avec différents copains, dont plusieurs qui venaient de l'asso Anciela à Lyon, on avait le même constat, et on s'est dit, bah, en fait, s'il n'y a pas de formation qui convient, en tout cas à Lyon, bah, nous on va la faire, si on veut. Et donc c'est pour ça qu'en 2019, on crée l'Institut Transition, avec cette conviction. Et l'idée, voilà, c'est d'accompagner des personnes alors, qui ont déjà une vie professionnelle, par exemple, on ne prend pas trop ceux qui sont très jeunes. Ben, c'est compliqué en fait de très jeune de répondre à cette question, quelles sont vraiment les choses qui t'animent, pour lesquelles tu es prêt à te battre, à transpirer. Et donc voilà, on les accompagne. Alors c'est vraiment la philosophie de l'Institut Transition, c'est d'être aux côtés de ces personnes, de les accompagner pendant un an à trouver leur place au sein de la transition écologique et solidaire et d'avoir tous les outils pour s'y sentir bien, quoi, si on veut.
Joli programme.
Ouais. Si on revient du coup un petit peu sur ton parcours à toi, qu'est-ce qui a été le déclencheur finalement de ta transition, ta prise de conscience? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit dans ton poste, non, ça va pas, je veux plus travailler comme ça?
Alors, ben, à la base, moi déjà, je suis pas trop le profil des étudiants. En quel sens, j'avoue que moi, quand j'étais en école d'ingénieur à l'INSA, j'étais un peu touchée, j'ai toujours trouvé ça cool, j'ai toujours eu des amis qui étaient assez engagés, mais je me suis toujours dit, c'est pas trop pour moi, c'est pas trop mes sujets. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler où je me suis dit, tiens, ça commence un petit peu à me déranger petit à petit. Alors, plusieurs choses. Déjà, les sujets sur lesquels on travaillait. Par exemple, donc moi, je travaillais sur du développement d'électroménager, de cafetière. Et je me souviens qu'on était sur de la cafetière haut de gamme. Et l'idée, c'était d'installer le Bluetooth pour pouvoir lancer son café depuis son lit avec une application. Sachant que c'était des machines en capsule qui étaient assez rapides, ça mettait 10 secondes pour faire un café. Je me suis dit, est-ce que vraiment voilà, mon but dans la vie, tu as travaillé 5 ans, tu as étudié 5 ans pour aider quelqu'un, un flemmard, à gagner 10 secondes le matin pour aller faire son café. Donc c'était un peu ce que je m'étais dit. Donc là déjà, bon, premier questionnement si on veut. Et après, de façon plus globale, mes collègues m'ont beaucoup aidé à me sensibiliser sur les sujets de l'écologie ou sur des sujets de solidarité. Ce qui fait que petit à petit, moi, vraiment, je me suis dit, mais comment ça se fait que des personnes comme vous, qui êtes sensibles à ces sujets, convaincus, qu'est-ce que vous faites coincé ici? Et il y avait vraiment un manque de perspective. Ça veut dire qu'on était tous d'accord pour se dire qu'il y avait un manque de sens, mais personne n'avait trop de vision sur ben, vers quoi on pourrait aller. Et je pense peut-être la différence, c'est que moi, j'ai jamais trop accepté ce constat. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution avec un métier qui est censé nous permettre de concevoir tout type de produits, toutes choses. Il y a bien quelque chose à faire. Mais bien sûr, en créant la Clavette, moi c'était un grand point d'interrogation. Hein. Je pense que ça serait totalement faux de dire que je savais exactement les projets que je vais faire, etc. C'était vraiment une intime conviction que je suis allée vérifier, quoi, si on veut.
Ok. Et à ton retour de voyage, du coup, justement, comment ça s'est matérialisé? Enfin, bon, là, tu as bien expliqué toutes les activités que tu faisais aujourd'hui. Mais du coup, quelle a été pour toi la suite logique, en fait, de ce voyage dans tes activités professionnelles? Comment tu as voulu transmettre tout ce que tu avais appris?
Ben, en fait, petit à petit, alors, faut se dire quand même, à chaque fois que j'allais visiter un projet, très souvent, je restais quasiment un mois et demi avec les porteurs de projet. J'habitais chez eux, très souvent, parce que je suis partie donc, en voyage seule, le sac à dos, avec le matos de vidéo, etc. Et très rapidement, les personnes disaient « Non, mais tu vas pas aller dormir en auberge ou en hôtel, viens chez nous. » Ce que j'espérais un petit peu, donc j'étais très satisfaite à chaque fois. Et ils disaient bah, « Viens chez nous, et de toute façon, l'idée, comme ça, on pourra mieux discuter, tu comprendras mieux ce qu'on fait, etc. » Et donc, très vite, à un moment, je me suis toujours sentie très reconnaissante du temps qu'ils me donnaient. Et petit à petit, je me suis dit « Mais en fait, c'est, voilà, moi, on me donne beaucoup, on me donne du temps, on me donne des infos, ça m'a fait énormément grandir. » Et donc on a envie de redonner, on se dit comment est-ce qu'on peut partager tout ça, comment est-ce qu'on peut voir. Et donc la continuité déjà, le premier truc en revenant c'était de se dire bon ben faut s'exprimer, faut le partager. Alors les vidéos faisaient quelque chose, mais je me rendais compte que les vidéos elles étaient intéressantes, c'était accompagné vraiment de discussions autour de ça. Et donc très vite j'ai commencé à faire des conférences dans des entreprises ou à des événements pour parler de ces sujets. Donc entreprises, très souvent c'était plutôt des entreprises industrielles, un type Renault, Airbus, ce type d'entreprise. Ou vraiment, alors ce qui était top, c'était de voir que la question intéressait. Mmh. Et donc voilà, c'était l'occasion d'ouvrir ces discussions par les projets, par l'aspiration. Ce qui est toujours un levier, je trouve, plus agréable que venir avec la culpabilisation ou en les blâmant. C'est en disant, ben voilà, regardez, il y a plein de gens qui font des choses top, intéressantes. Et malgré tout, ce qui réunissait à chaque fois moi, les porteurs de projets ou les entreprises, c'était de dire, bah, c'est des gens qui sont animés par le fait de concevoir des produits. C'est des gens qui sont animés par le fait de se dire, bah oui, en réfléchissant un produit, on peut peut-être trouver des solutions, quoi. Et donc, à chaque fois, ça faisait qu'il y avait une direction qui était commune, quoi, si on veut.
Ok. Du coup, si on revient un petit peu... Enfin, si on prend l'angle de toi en tant que femme ingénieure engagée dans la transition écologique, on avait des questions, une partie en tout cas sur ton expérience de la place des femmes dans cet univers-là. Donc on sait que aujourd'hui forcément il y a moins de femmes ingénieures que d'hommes ingénieurs, en tout cas dans les métiers, dans ces postes-là. Dans les écoles d'ingénieurs, on l'a lu aussi, les écoles d'ingénieurs attirent toujours autant de monde, mais la part des femmes stagne, enfin des étudiantes stagnent plutôt. Quel est ton constat aujourd'hui sur ce que tu as pu expérimenter? Est-ce que les choses bougent?
Alors, en constat, si on parle de chiffres, c'est clair que la part des femmes est pas énorme. Elle n'était pas énorme quand j'ai fait mes études. Elle est toujours pas énorme à l'heure actuelle. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'être parmi différents milieux. C'est-à-dire, j'ai fait l'IUT avant de faire l'INSA. Mon IUT était déjà un des IUT les plus féminisés d'IUT génie mécanique, si on veut, et l'INSA est aussi une des écoles les plus féminisées, parce que clairement j'étais allée par exemple aux arts et métiers, je me souviens les arts et métiers de Cluny, il y avait la personne du secrétariat m'avait montré les photos des élèves et elle me disait ah les filles, alors attendez, je sais qu'on en a quelques-unes, attendez je vais les trouver.
C'était mal parti, quoi.
On était un peu dans ce cas-là où je me suis dit ah oui d'accord. Et après, par contre, à l'UT, quand j'y repense, j'ai quand même eu aussi des professeurs qui ont toujours soutenu ce que j'ai fait. Par exemple, on avait un gros projet étudiant qui était le Shell Eco Marathon. Donc le but, on est 16 étudiants et le but, c'est de prototyper, concevoir un véhicule écologique, si on veut. Et je me souviens, on avait une séance où il fallait choisir un chef de projet pour organiser tout ça. Et à la base, alors moi, j'avais pas forcément ça en tête, et c'était deux professeurs, qui étaient ceux qui encadraient le projet, qui étaient venus me voir, qui m'ont fait « Bon, il y a Augustin qui pense se présenter, il est pas mal, etc. Mais nous, on se dit que ça serait vraiment bien que ce soit toi qui le fasses. » Et moi, je dis « Ben, je sais pas trop, j'ai un peu de mal avec cette idée de m'imposer au groupe. » Et il me disait « Ben, candidate, et de toute façon, on demandera à tout le monde de voter, et si jamais ça le fait, voilà. » Et donc finalement, on s'était proposé tous les deux, et finalement c'était moi qui avais été sélectionnée pour être chef de projet. Et voilà, donc j'ai toujours eu un peu des petites anecdotes comme ça qui ont fait que ça m'a toujours... Quand même, je me suis bien sentie dans ces études. C'était pas quelque chose qui était trop gênant. Pareil, les tuteurs de stage, par exemple, que j'ai eus, étaient toujours des... c'était deux hommes, mais deux hommes très bienveillants. Pareil, qui étaient en mode, ben voilà, je vais te montrer, tu vas voir, tu vas faire. Mais ce qui m'a toujours préservée, je pense, c'est le fait que, ben, encore une fois, j'aime bien la technique. Ce qui n'est pas le cas de toutes les filles ingénieures, et ce qui n'est pas le cas de tout, même étudiant ingénieur, de façon générale. Je pose souvent cette question à mes étudiants. Je pense que tous les gens qui m'ont eu en cours, à un moment, j'aurais posé la question. Pourquoi est-ce que vous êtes en école d'ingénieur ? Enfin, pourquoi vous avez choisi ces études ? Et en fait, on se rend compte que l'amour des sciences ou de la technique n'est pas forcément un critère. Enfin, bon, y a plein d'aspects, hein, continuité sociale, souvent un non-choix. C'est beaucoup ce que j'entends, un non-choix, mais que ce soit des garçons et des filles. Et finalement, moi, le fait d'être quand même... c'est un choix que j'ai fait d'aller dans ces études, et c'est un choix aussi un peu de passion, m'a toujours un petit peu préservé de ça. Par contre, si celle que j'ai connue qui était moins animée par ça, alors là, par contre, il y a pas de, il y a beaucoup moins de pitié, quoi, d'une certaine façon, quoi.
Ok.
Donc après, là, ce que je dirais au niveau des étudiantes, je pense qu'elles le vivent bien. Je sais pas si c'est aussi difficile qu'on pourrait en avoir comme idée, mais moi, un gros frein que je vois souvent, et c'est un truc que je dis souvent, c'est que pour moi, les mères sont un des plus gros freins à pourquoi est-ce que les filles ne vont pas en école. C'est-à-dire que énormément de gens, et ça je l'ai entendu très souvent, même la mienne, qui est pourtant une femme assez forte et indépendante, il y a un côté genre, mais tu n'as pas peur d'aller dans une école où il n'y aura que des garçons, est-ce que tu te sentiras bien, ma pauvre, d'aller, et du coup qui m'a presque rajouté une crainte que je n'avais pas du tout, personnellement. Et je me suis dit, ben non, enfin, c'est pas un souci pour moi. Et ça, je l'entends, quoi. Je continue à l'entendre, des mères qui disent, moi je me dis quand même c'est pas fun pour elles. Et je me dis tout le temps que quand on entend des remarques limitantes, mais venant de, comment dire, d'un homme blanc macho qu'on arrive facilement à mettre dans la catégorie, bon bah cette personne, de toute façon, je suis pas d'accord avec elle, y a pas de souci. Okay. Mais quand ça vient de sa mère qui plus est, qui peut être une personne qu'on admire, qu'on respecte, etc., bah forcément ça plante beaucoup plus des petites graines, quoi, d'une certaine façon.
Complètement, bah c'est des injonctions sociales qui participent à renforcer les inégalités, ou en tout cas le fait que tu te sens pas forcément à l'aise dans un tel ou tel endroit. Et du coup, aujourd'hui, toi, on avait un petit peu parlé quand on s'est eu au téléphone, mais toi, aujourd'hui, dans ton parcours professionnel, dans les personnes que tu rencontrais, est-ce que tu rencontrais des femmes, justement, engagées dans la transition dans ce secteur-là ?
Alors, oui, clairement, il y en a. Il y en a plein qui m'ont beaucoup inspirée, et je pense même que les premières personnes que j'ai rencontrées dans ce secteur étaient des femmes, si on veut. Je peux très bien citer Mélanie Marcel, par exemple, qui a l'entreprise SoScience. Et je me souviens, elle a toujours eu un côté très ouvert, très un peu grande sœur. Où quand j'ai commencé à lui dire qu'avec la clavette, je comptais réfléchir à ces questions, elle disait, ah ben, de toute façon, t'inquiète, vas-y, la porte ouverte, il y a largement assez de place pour deux, et si je peux t'aider, il n'y a pas de souci, quoi. Donc des personnes comme elle, des personnes comme Agnès Crépé par exemple, qui est plus sur le côté du numérique. Et donc rapidement je me suis dit, ah mais en fait là il y a vraiment des femmes qui m'inspirent, quoi, si on veut. Et moi il y avait toujours eu un peu ce côté quand j'étais plus jeune, alors je déteste cette expression, mais à défaut de trouver mieux, j'étais un peu garçon manqué. Et parce qu'il y avait un côté, je me disais, mais moi j'aime pas l'image des femmes, j'aime pas ce que la société renvoie des femmes, c'est pas quelque chose qui m'attire ou qui m'inspire. Et je disais souvent, quand j'étais petite, je disais souvent, mais en fait, j'ai pas envie d'être une fille, les filles sont niaises. Quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est juste l'image qu'on montre des filles, souvent, alors encore plus les petites filles, si on veut. Et en fait, quand j'étais en école d'ingénieur, je pense que j'étais un peu dans une école d'ingénieur comme un garçon. L'idée, c'était de se dire, bah voilà, je vais réussir comme les garçons, je vais être technique, je vais avoir de la répartie, je vais avoir de l'humour. L'humour m'a beaucoup sauvée, je pense, dans les milieux masculins. Donc je vais me dire, bah c'est bon, je vais trouver ma façon de m'en sortir comme un gars. Tandis que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant depuis que je suis beaucoup plus dans des milieux, dans la transition, c'est que là je rencontre des femmes qui, alors que ça soit sur les sujets d'ingénierie positive ou sur des sujets d'entrepreneuriat social, qui sont vraiment inspirantes, mais comme des femmes, si on veut. C'est-à-dire dans leur façon, alors que ça soit... en tant que mère, que ça soit en tant que femme qui va sans soutif à un rendez-vous devant un grand congrès, que ça soit en tant que femme qui prenne la parole. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été un gros déclic, un gros soulagement aussi, de me dire, ah ben c'est top de rencontrer un peu des rôles modèles, quoi, d'une certaine façon. des rôles modèles, des pères maintenant, je dis souvent, ou des sœurs, selon les cas vraiment. C'est... Mais par exemple, je me souviens, le sujet de la sororité était quelque chose mais qui ne m'attirait pas du tout maintenant. Et au contraire, maintenant, je vois qu'il y a tellement de femmes que je me dis, ben voilà, on fait partie d'une grande sororité, on se soutient. Et c'est top. Et alors, sur cet autre sujet du travail, je dirais, ben, je sais très rapidement, les personnes qui m'ont fait intervenir étaient souvent des femmes. C'est-à-dire au sein des entreprises industrielles, celles qui m'ont contactée pour que j'aille faire une conférence, celles qui ont vu pour qu'on travaille ensemble, c'était très souvent des femmes. Alors, je n'ai pas la réponse de est-ce que c'était des femmes, parce que moi, je suis une femme, et elles se disaient, ben, c'est top d'aller travailler avec une femme. Ou est-ce que celles qui sont intéressées par ces sujets en entreprise sont plutôt des femmes? Je ne saurais pas le dire. Après, par contre, je sais juste qu'empiriquement, il s'avérait que c'était quasiment tout le temps des femmes.
Ouais, c'est assez dingue. Et du coup, comment ça se passait? Parce que tu me racontais une anecdote assez marrante. Donc, comment toi, tu déroulais ou appréhendais en tout cas ces rendez-vous? Qu'est-ce qui faisait que tu allais un petit peu plus loin que juste intervenir dans une entreprise lambda?
Ben, alors c'est vrai, comme je disais, j'avais passé pas mal d'années à aller dormir en sac à dos chez des inconnus et à me rendre compte à quel point c'était intéressant d'avoir des discussions plus vraies, plus intimes, tout ça. Et donc de retour en France, je me suis et même avec mes clients en entreprise, je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer le concept, quoi, d'une certaine façon. Et donc des fois, quand on me sollicitait pour intervenir à une conférence, c'était très souvent pas à Lyon ou loin d'un endroit où je pouvais dormir facilement. Et donc les personnes par défaut vont vous dire, bon, ben, est-ce qu'on vous réserve une chambre d'hôtel, etc. Et moi j'ai toujours détesté les chambres d'hôtel. Et je disais, ben, ça te dit, sinon je viens chez toi, on mange ensemble, et si t'as une place, t'as une chambre d'amis ou autre, ça me permet de rester avec toi et de discuter. Et donc comme c'était tout le temps des femmes, ça a permis en fait ces espaces-là de discussion, de se dire, ben, comment toi t'imagines changer l'entreprise? Puisque quand je réfléchis à vraiment mon impact positif avec tous ces événements, les conférences, les événements organisés, etc., ce qui était vraiment intéressant, c'était plus de se dire comment ces personnes qui viennent et me font intervenir, qui sont souvent des personnes qui veulent faire changer, bouger les lignes, bah comment moi je pouvais les aider, comment je pouvais, qu'est-ce que c'était, de quoi elles avaient besoin, est-ce que c'était du réseau, des connaissances, de l'aide, de la légitimité, de la confiance en elles. Et tout ça, en fait, on ne pouvait pas en discuter pendant qu'elles étaient au bout. On pouvait en discuter seulement quand on était assise sur le canapé, à échanger sur plein d'autres sujets, sur leur vie, et donc réfléchir à leur engagement. Et donc ça, c'est vrai que... Alors, quand je raconte que je fais des pyjama parties avec mes contacts d'entreprise, très souvent, les gens sont étonnés. Et en fait, je me dis, oui, mais en fait, ça, je l'ai fait parce que c'était des femmes. Parce que ouais. Clairement, je pense pas que je l'aurais fait peut-être avec des hommes, ça aurait été bizarre, clairement.
C'est pas envoyer un message un peu...
Voilà, c'est ouais, la porte ouverte ouais. À une situation
un peu
gênante. Voilà. Après, avec les garçons, on allait certainement prendre un verre avec l'équipe, etc., derrière. Mais ce côté, voilà, vraiment intime. Puis plein de fois, on discutait en tant que femme, comment t'imagines le changement. Je pense que très souvent, il y en avait qui me déléguait une certaine expertise ou une certaine position de poil à gratter en me faisant intervenir, en me disant, bah voilà, moi c'est des sujets dont j'aimerais bien parler, mais peut-être je me sens pas de les aborder. Le fait d'amener quelqu'un d'extérieur, c'est toujours plus simple en général pour amener des sujets, encore plus des sujets qui peuvent déranger des fois, quoi.
Et alors toi, en tant que femme et en tant que femme engagée, ingénieure engagée, est-ce que le fait d'avoir ces deux casquettes là, ça a été parfois problématique pour toi ou pas vraiment, dans ces milieux encore masculins, très traditionnels?
Alors, on va dire que j'ai pu constater des fois à quel point mon profil pouvait détonner, dans le sens où, par exemple, je me suis retrouvée une fois, c'était un directeur d'une entreprise de bâtiment, donc c'était le directeur de toute une région, et en fait, il m'avait dit, ah, ce serait intéressant qu'on fasse un rendez-vous avec les différents directeurs de secteur. Ça tombe bien, on a une réunion tous ensemble le mois prochain, une réunion d'équipe, et ben venez, comme ça sera l'occasion d'en discuter. Et donc, réunion d'équipe qui se passe, alors, truc ultra caricatural, quoi, c'était dans un endroit où on fabrique le vin, dans une cave. À 20, l'idée c'était de visiter la cave, et après il y avait un grand repas avec vin, fromage, classique. Et donc, je me retrouve là-bas, et à cette soirée, il y avait... Vraiment, honnêtement, on était une vingtaine, c'était 20 hommes blanc, un petit peu benonnant, la cinquantaine, et vraiment mais une homogénéité, mais totale. Ouais. Et d'ailleurs, j'en ai fait la remarque gentiment, je fais, ben, c'est vrai que quand même, ça se ressemble quoi, autour de la table, ça, c'était alors, il n'y avait pas forcément de jeunes, il y avait encore moins de femmes, et donc oui, là forcément, d'un coup, on constate qu'il y a un décalage. Après, alors, je sais pas à quel point, encore une fois, les gens me faisaient intervenir en tant que femme qui parle de ces sujets. Mmh. Je sais pas, c'est des points où jamais quelqu'un va vous dire « Ah, oh, bah, ça nous aide à faire des quotas, des stats. » Alors, non, quoi, je vous dis ça, et encore, des fois, ça m'est arrivé d'être des fois à des conférences où il y a plusieurs intervenants qui me disent « Ah, bah, ça tombe bien que vous soyez une femme, d'une certaine façon. Mmh. » En mode « Ça va nous aider dans les quotas, tant mieux, vous êtes une femme, quoi. » Donc, clairement... Je pense qu'il y avait un petit phénomène de ça.
Toi, en revanche, tu t'es jamais senti mal à l'aise ou pas ta place ou un peu bulldozer. Enfin, ton ressenti à toi, c'était quoi par rapport à cette situation ?
Ben, je pense que très très rapidement, encore une fois, moi, mes modes de désamorçage de ça, c'est de montrer que je suis quelqu'un qui est intéressé par les sujets techniques. Aussi, comme je ne les blâmais pas forcément, moi, l'idée à chaque fois, c'était d'arriver... J'ai toujours eu cette position de dire, ben, moi, je pose des constats, ce qui fait l'ordre du constat, pas de l'avis. Moi, je donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez, et je vous montre des perspectives. Mmh. Après, libre à vous de faire vos décisions par rapport à ça. Et donc là, tant que j'ai eu cette position, je ne me suis jamais trop fait tacler en tant que femme. À la limite, peut-être que je me suis plus souvent fait tacler en tant que jeune. Il y avait ce côté, des fois, ma petite dame, chenette. Mais je pense peut-être j'aurais été un garçon, ça aurait été la même, d'une certaine façon. Ouais. Donc l'agéisme était plus embêtant, des fois, que le côté être une femme.
Ok. Alors, du coup, selon toi... qu'est-ce qui permettrait à plus de femmes aujourd'hui de se faire entendre, de se faire une place ? Si tu avais des conseils, qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait ?
Alors un truc moi qui m'a déjà le constat en fait de me rendre compte que parmi toutes ces femmes qui m'ont inspirée, alors il y en a qui n'ont pas de mal à prendre la parole, hein, je disais Mélanie Marcel ou Agnès Crépé, c'est des femmes qui n'ont aucun mal à aller chercher la parole, mais il y a aussi énormément de femmes qui ont des propos très intéressants, mais qui ne vont pas oser prendre la parole, ou en tout cas qui ne vont pas aller la chercher. C'est vraiment un peu ça l'expression que je dirais. C'est aller la chercher, aller la demander, se faire une place sur ça. Et donc ça a toujours été un peu une grosse frustration, de dire mais j'ai des conversations avec des femmes super intéressantes, et je passe mon temps à constater des fois qu'il y a plein d'hommes qui, pas forcément intéressants, qui prennent la parole, ou qui connaissent moins les sujets qu'elles, en tout cas sur des aspects très précis, qui connaissent moins les sujets. Je me dis, mais comment ça se fait qu'elle ne prenne pas ? Et donc, ça m'a toujours posé un peu la question de toutes ces questions de quotas ou ces questions de est-ce qu'il faut pousser les femmes, etc. Ben, pour moi, finalement, alors au début, j'étais un peu contre. Et plus le temps passe, plus je me dis, mais en fait, c'est vraiment intéressant de faire la place pour elles et elles la prendront d'une certaine façon. Ça, je pense vraiment qu'il y a... Il n'y a pas que de l'autocensure des femmes, c'est juste que des fois, ben, faut qu'il y ait cette place. Mais cette place, elle correspond, pour moi, c'est comme le professeur à l'UT qui me disait, ben, tu sais quoi, moi, je pense que ça serait bien que tu te proposes, ça serait bien que toi, tu prennes la parole. Ouais. Et donc, avoir ce côté-là aussi, d'aller dire aux personnes, ben oui, ça serait bien que toi, tu parles, parce que finalement, beaucoup de conférences, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est des personnes qui m'ont dit, mais viens, mais moi, je trouve ça top que tu parles sur ce sujet, je trouve ça top que tu fasses cette conf devant 300-500 personnes. Mmh. Et donc, maintenant, j'essaye beaucoup d'avoir cette position aussi par rapport à des femmes que je trouve intéressantes, de dire, ben, vas-y, t'inquiète pas, tu peux y aller, ça sera intéressant, etc. Et donc, voilà, avoir ce côté-là, comment on peut s'encourager les unes les autres, et aussi les hommes, hein, encourager des femmes... si jamais vous voyez des femmes intéressantes, ben dites-la, encouragez-les à le faire quoi. Et si jamais le fait de prendre la parole c'est quelque chose qui vous fait peur, ben entraînez-vous. Moi je me souviens, j'étais horrifiée les premières fois que j'avais écouté mes vidéos ou mes passages sur scène. Vraiment, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, faut faire quelque chose. Je me suis formée, j'avais pris une coach vocale qui m'avait aidée à positionner un petit peu ma voix. Je parlais très vite, alors je parle toujours vite, mais je parlais très 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 vite à l'époque. elle m'a aidée. Quand je suis en conférence, quand je suis en cours, j'ai pas du tout le même ton, je pose beaucoup plus ma voix. Et avec un détail aussi que je t'avais partagé, Laetitia, que je trouve intéressant à conscientiser, c'est de se dire que très souvent, les voix qui vont être du registre aigu, bah en fait, c'est des voix qu'on a tendance à décrédibiliser. C'est-à-dire, si je vous mettais à vous parler comme ça, de mes actions, etc., naturellement, on se dit, mince, ça va être nié. Et enfin, moi, chez vous, en tout cas, je vous ai dit, de base, j'ai mis longtemps à déconstruire le fait que les femmes ne sont pas niaises. Et je me rends compte que c'est beaucoup lié à ça, en fait. Mmh. Dès que même quand j'entends une femme qui va tomber sur le registre aigu, ça va automatiquement me biaiser sur ça. Et je suis obligée de me forcer à me dire, non, écoute, plus au-delà de ça. Et donc, par exemple, Leïla Mana, qui est celle qui m'a beaucoup aidée par rapport à la voix, elle me disait, bon, moi j'ai de la chance, je suis sur un registre médium, qui est le registre qui est très bien pour faire des conférences ou autre. Mais elle me disait, elle travaille beaucoup avec les femmes pour les aider à descendre de registre quand elles essayent de convaincre, quand elles essayent d'expliquer. Et donc voilà, il y a des trucs comme ça où, ben oui, malheureusement, beaucoup de femmes vont avoir des registres aigus, là où beaucoup d'hommes sont beaucoup plus sur un registre naturellement médium. Ben voilà, l'idée, c'est pas une fatalité en soi, mais c'est juste de dire, ben, peut-être travailler ça. Et il y a plein d'autres petits aspects comme ça qu'on peut faire pour s'aider à se dire, ben voilà, on fait en sorte que l'épreuve de la prise de parole soit moins grande ou moins difficile à appréhender, quoi.
Et toi, du coup, là, tu t'es, t'as été formée, accompagnée, et on t'a encouragée dans le passé à prendre de la place, à prendre la parole, etc. Mais est-ce que t'avais quand même cette envie-là quelque part au fond de toi, ou c'est parce qu'on t'a montré le chemin, justement, qu'on t'a proposé de prendre la parole, que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés autres, finalement, que t'as pu rencontrer, ou au contraire, des choses qui t'ont boostée pour prendre la parole, justement ?
Alors, moi, je dirais, au-delà de prendre la parole, il y avait ce côté entrepreneurial qui, je pense, m'avait toujours un petit peu titillé d'une certaine façon. En tout cas, j'adorais écouter les histoires d'entrepreneurs, voir des gens qui montaient des projets. J'ai toujours trouvé ça inspirant. Et je me suis longtemps considérée comme quelqu'un aux côtés d'eux. Enfin, je disais tout le temps, moi, ça ne m'intéresse pas forcément la lumière, ça m'intéresse, mais de soutenir quelqu'un, d'être techniquement en support, mais de ne pas forcément être devant. Et après, c'est vraiment venu petit à petit où je me suis dit, bah, en fait, c'est assez fun de parler, de réfléchir à comment on fait passer des idées. Et oui, il y avait un côté, je pense, où je me suis dit, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus de femmes qui prennent la parole sur ça. Donc, si moi, j'arrive à le faire, pas toujours top, pas toujours parfaitement, bien entendu, mais si déjà je me dis que ça peut être un visage de plus qui est vu sur scène, ça peut toujours aider. Puis après, j'ai des retours aussi qui m'encouragent sur ça, c'est-à-dire j'ai des femmes qui m'ont dit ben moi c'est top de vous avoir vu sur scène, ça m'a donné envie aussi, alors soit de changer de vie, faire des changements qui sont les messages des fois que je dis dans mes conférences. Mais soit qui vont dire, mais en fait, je me dis que moi aussi, je peux m'exprimer sur des sujets. Donc, ces retours sont ultra, ultra motivants. Après, moi, il y avait plein de craintes que j'avais. Il y avait la crainte de venir en tant que jeune, la crainte de venir en tant que femme, la crainte de venir en tant qu'enfant d'immigré vietnamien aussi. Ça aussi, ça détonne. Je connais pas beaucoup. Alors, j'en connais maintenant de plus en plus de femmes immigrées. Enfant d'immigrés vietnamiens auxquels je m'identifie, je me reconnais, comme Huyen Thien Do, qui est aussi une copine du réseau Empower. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu des trucs qu'on essaye de surpasser, quoi, de se dire, ok, ils vont pas nous percevoir que comme ça, et ils vont nous voir autrement. Mais bon, je pense que j'ai tellement commencé par le baptême du feu, qui est mettre des vidéos sur YouTube, et vraiment, je m'attendais mais à un accueil mais tellement plus mitigé, en mettant des vidéos sur internet. Et au contraire, alors vraiment, j'ai même pas en tête un commentaire qui m'est un petit peu traumatisé, glacé ou quoi que ce soit. Des fois, les gens pouvaient débattre des sujets que je discutais, mais vraiment, j'ai eu aucune attaque personnelle, si on veut, ou même de remarques trop déplacées ou quoi que ce soit. Les commentaires étaient toujours orientés sur les projets que je montrais, sur le message que je disais, et jamais sur les personnes. Et je pense que le fait de me dire, bon, si ça s'est passé, en fait, je crois que j'ai fait tous les baptêmes du feu. J'ai fait les vidéos, j'ai fait les classes. Alors, clairement, j'ai beaucoup plus peur d'aller dans une classe, des fois, de 30 étudiants que un congrès industriel de 300 personnes, d'une certaine façon. Des fois, si on veut, les professionnels vont pas forcément se permettre de vous rentrer dedans, tandis que alors les jeunes ou les étudiants, s'ils sont pas d'accord avec vous, vous savez tout de suite quoi.
Ils peuvent être moins diplomates aussi sur leur façon d'interagir et de commenter le cours ou le professeur.
Donc des fois, quand t'as réussi à encaisser ça, bon bah voilà, finalement, tu te dis t'es plus à ça près quoi.
Et du coup, l'expérience en fait aide. Parce que là, tu parles de baptême du feu. En gros, quelque part, il faut. Alors, il y a les quotas dont tu as parlé, il y a aussi faire de la place aux femmes, et il y a finalement oser se jeter à l'eau. Et après, l'expérience fera qu'on est de plus en plus à l'aise dans ce rôle-là de prendre de la place.
Un truc que je dis souvent, c'est par exemple à l'Institut Transition. Je m'occupe des fois de faire des petits cours sur la prise de parole. Et un truc que je leur dis souvent, c'est « Mais vous savez, nous tous, dans l'équipe de l'Institut de Transition, au début, mais on était tellement nuls en prise de parole. » Alors, sachant qu'on est tous profs, qu'on est souvent amenés, la plupart d'entre nous, à faire des conférences ou des interventions. Et je leur dis « Mais on était vraiment très, très nuls. » C'est-à-dire, il y avait des gens qui bégayaient, il y avait des personnes qui étaient hésitants, qui bougeaient dans tous les sens, qui avaient beaucoup de mouvements parasites. Et voilà, je leur dis, c'est juste qu'on l'a fait, on l'a tellement fait. On a, à force de parler, de répondre à des articles, à faire des vidéos, des choses comme ça, on s'est amélioré avec le temps. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire, c'est ok de faire au début des interventions qui sont nulles, et j'en fais toujours. J'en fais toujours des cours où je ressors et je regarde ma collègue, je me dis, oh là là, ce cours était nul, j'étais pas dedans, c'était pas construit, je vais le changer, je vais l'améliorer, je vais l'amener différemment. Donc voilà, il y a toujours ces moments où l'intervention était pas top. Du coup, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on adapte ? Comment on change ? Et c'est sûr que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça m'empêche pas des fois de faire des nuits blanches. Par exemple, à chaque fois où je fais un contenu qui est un peu nouveau, je vais très souvent faire une nuit blanche la veille. Et voilà, et c'est ok. une fois qu'on le sait, on se dit, c'est pas grave. Prévois juste du café le lendemain et ça ira bien.
C'est le trac avant de monter sur scène, comme n'importe quelle star. Parce que t'es un peu la star de l'ingénierie positive, quelque part.
Dans
mes recherches, quand on tape ingénierie positive, on tombe beaucoup sur beaucoup de contenus qui viennent de toi. Et d'ailleurs... t'en as parlé un petit peu, mais je m'étais demandé s'il y avait d'autres femmes inspirantes, rôle modèle. Voilà, t'en as cité deux tout à l'heure, donc on remettra aussi les infos sur elles dans le descriptif de l'épisode. Mais et du coup, moi, ça me faisait penser aussi à la notion de leadership. T'as parlé un peu de ce projet d'étudiante où t'as été chef de projet, justement. Toi, c'est quoi ton point de vue, d'ailleurs, juste sur cette notion de leadership ou cette posture, et comment on peut encourager les femmes, notamment dans un milieu d'ingénierie ou de prise de parole, à adapter ce leadership à leur position, leur valeur, et à s'emparer en fait de ce sujet-là. Toi, c'est comment tu vois les choses par rapport à ça ?
Alors moi, clairement, ce qui m'a beaucoup aidée sur le leadership, c'est que j'ai fait les formations de Empower, et donc il y avait un format qui s'appelait Women Act, je ne sais plus. Et Women Act, ce qui était intéressant, c'était de mettre ensemble plusieurs femmes entrepreneurs sociales et de les aider d'un point de vue de leadership. Et ça a vraiment, vraiment marché sur moi, en tout cas, parce que je pense qu'avant ça, j'avais pas bien compris ce que c'était le leadership. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, le leadership, c'était... Il y avait un peu ces modèles de réussite de l'entrepreneur. Alors, je prends toujours cet exemple, mais c'est ce côté... tu te lèves à 6h, t'as une to-do list qui fait 30 items, mais c'est pas grave, tu vas arriver à la faire parce que t'as lu les bons bouquins, parce que tu t'es motivé, t'as eu la bonne alimentation, t'as fait ton sport, enfin bon, etc., tout ça, tout ça. Et tu deviens un leader inspirant, quoi. Donc moi, j'avais un peu cette image-là, et qui est beaucoup ce qui est mis en avant, surtout sur la scène entrepreneuriale. Enfin, la scène entrepreneuriale, elle glorifie beaucoup des profils, des fois, mais qui sont juste inatteignables. Ouais. Alors déjà, faut se le dire, ces profils sont inatteignables. On se retrouve tous de temps en temps en PLS, et en culotte à se demander mais qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre vie. Voilà, c'est dit au moins. Donc voilà, il y avait un peu ce côté-là, je trouve, qui était intéressant de déconstruire des figures trop parfaites. Et après, au côté de ça, quand je disais comprendre ce qu'était le leadership, c'était vraiment cette notion de dire être un ou une leader, mais à ta façon. d'une certaine façon. Mmh. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans l'approche. C'était de dire, bah voilà, qu'est-ce qui pour toi est important, qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce qui fait que vraiment là, tu vas trouver un rôle de leader qui te convient et dans lequel tu te reconnais. Et par exemple, alors moi je parlais d'Agnès Crépé. Agnès Crépé, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de choses, mais qui ne se prend jamais trop au sérieux d'une certaine façon. C'est-à-dire, elle reste toujours humble, elle reste toujours drôle, etc. Mmh. Et donc, il y avait ce côté-là où je me suis dit, mais en fait, moi, ça sera jamais. Je serai jamais la personne qui se lève à 6h du matin pour aller se motiver à faire plein de choses. Par contre, j'aime être quelqu'un qui met la bonne ambiance quand on travaille. J'aime être quelqu'un qui prend soin des personnes avec qui elle bosse. Et donc ça, alors bon, c'est pas forcément féminin, hein. Moi les collègues les plus bienveillants, c'est quand j'ai travaillé avec les camarades de la mine, qui est un peu un lieu tech et social, si on veut, sur Lyon. Et voilà, où il y avait énormément de bienveillance, c'est pareil, je m'en suis beaucoup inspirée aussi. Et toutes les femmes qu'on avait dans le séminaire Women Act, c'était que des femmes aussi inspirantes, où je voyais justement des leaderships qui étaient assez différents, donc je me suis inspirée des briques de chacune d'entre elles. Je pourrais en citer plein. Il y a Aurélie Deroux qui a Cocotarium. Aurélie Deroux, pareil, elle a un côté très drôle, très, très fun dans son approche, mais elle est brillante sur ses sujets. Il y a Karine Torrent qui a Floratropia, qui est une marque de parfum responsable. Pareil, elle, parce qu'on adore l'audace, toutes les deux, on adore le côté un peu impertinent des choses. Elle me dit tout le temps, bah toi t'es un peu le trublion de l'ingénierie, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est des femmes. Il y a Violette Suquet, pareil, on se reconnaît beaucoup là-dedans. Violette Suquet qui est illustratrice sur des sujets engagés. Elle a toujours eu ce côté, mais vas-y à ta façon. C'est quelqu'un qui va en réunion en allaitant et elle se dit, ben ouais, mais c'est pas grave, je suis devant un collectif de mères, j'y vais en allaitant, ben, au bout d'un moment c'est ça aussi être mère, donc ouais. Acceptez-le et c'est ok. Et elle m'a dit, mais j'ai toujours eu des retours très positifs de ça, parce que finalement ça force au respect aussi, quoi, d'une certaine façon. Et donc bon, quand vous avez rencontré autant de femmes comme ça qui sont inspirantes dans leurs bottes, etc., bah vous dites ok, bah ça marche, moi aussi je vais trouver ma façon de le faire, qui va être un mix de ce que j'apprécie et qui résonne chez chacune d'entre elles, quoi.
Ouais, finalement ça permet de s'inspirer de différentes postures, et c'est ces fameux rôles modèles qui permettent aussi de piocher un peu ce qui nous parle, et puis et l'adapter après à sa personnalité, ses valeurs. Ça, c'est chouette. Et t'as parlé de sororité tout à l'heure. Alors, nous, c'est un terme qui nous plaît beaucoup. Est-ce que c'est ce que t'as retrouvé, justement, dans ce programme Women Act, et comment ça se traduit est-ce que ça se pérennise? Est-ce que vous gardez des liens? Est-ce que ça contribue, justement, à cette entraide, cette communauté entre femmes, et du coup, ça permet de se motiver aussi, de jamais lâcher le morceau, quoi, toujours y aller
Ah bah oui, totalement. C'est un soutien. Alors, est-ce qu'on le maintient? Ben, jamais assez, on aimerait tellement plus pouvoir l'entretenir, surtout qu'on n'habite pas forcément dans les mêmes villes, on est tout en France plus ou moins, mais on n'habite pas dans les mêmes villes, alors le Covid n'a clairement pas aidé non plus pour se retrouver, mais on avait réussi à se revoir quand même plusieurs fois, à se créer des séminaires off, si on veut, de rendez-vous. On a surtout un groupe WhatsApp aussi où on échange, puis après c'est à, comment dire, c'est une communauté, on n'est pas obligé d'être tout le temps tout ensemble. Des fois ça va être par exemple avec Aurélie, j'étais partie en trip vélo avec Maïmonatou, Marc qui travaille sur le sujet des nounous, on était partie faire un tour de Bretagne où on était allé voir justement chaque copine qui habitait en Bretagne. Donc voilà, ça aide à continuer à maintenir ce lien. Mais surtout, je pense là où vraiment je suis très contente de les avoir, c'est que quand on a des doutes ou quand on a des moments où ça va pas, ben clairement un des premiers réflexes c'est d'envoyer un message, quoi, de dire ben là franchement j'en ai marre. Il y en a qui ont eu des périodes vraiment très compliquées d'un point de vue de leur engagement, soit en termes financiers, soit en termes personnels, des choses comme ça, et d'avoir un espace où vous dire, où les personnes vont dire bah ok t'inquiète ça va aller, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps, on peut pour en parler, pour discuter, on est là, on est avec toi, juste dire ça déjà, dire bah ça marche, il y a pas de souci, on te juge pas, juste on est là et on te soutient, et si on peut faire plus, hésite pas à nous dire, ou en tout cas nous on va se proposer. Et donc avoir ce côté là c'est quand même top. Et surtout quand on est sur des sujets, alors que dès que ça va être un petit peu entrepreneurial, c'est très dur de trouver ce soutien des fois dans ses proches, tout simplement parce que les proches des fois vont pas forcément comprendre de quoi on parle. Alors il y a, on va dire, il y a deux mots, hein. Il y a entrepreneuriat et il y a social.
Donc déjà c'est compliqué comme notion.
Trouver ces deux trucs, trouver autour de soi des gens qui sont un peu des deux, ben c'est quand même pas si facile. Vous pouvez peut-être trouver des proches qui vont être dans des sphères entrepreneuriales, mais qui vont pas comprendre quand vous êtes là à vous dire est-ce que t'as l'impression que ça a de l'impact, est-ce que t'as l'impression que là on aide à faire de la transmission, que la communication est bien, que je traite bien les personnes avec qui je travaille. Enfin voilà, c'est quand même particulier. Et pareil, la casquette entrepreneuriale, vous pouvez avoir des gens très sensibilisés au sujet d'écologie ou de solidarité. Par exemple, je considère mes amis tous à des degrés plus ou moins importants, mais quand même tous assez sensibilisés à ce sujet et qui ont été des super soutiens, qui m'ont toujours soutenu dans mes différents projets. Mais par exemple, il y a un running gag qui est mais on comprend pas ce qu'elle fait, Isa, quoi. Ça a toujours été ça dans mon groupe d'amis. C'était dire, en fait, on sait que tu fais des choses, on te soutient, on est là pour toi, on est derrière, on trouve ça cool. Mais en fait, personne ne sait répondre à cette question. De dire, mais en fait, je fais quoi au quotidien, à quoi ressemblent mes journées. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu chaotique, donc voilà, il y a ce côté-là. Mais ce qui fait que parfois, les filles, elles comprennent. Enfin, les filles de ton groupe
Womenette.
Il y a un côté où on se comprend, et même si des fois on se suit pas, ça va faire un an, deux ans qu'on s'est pas vu avec certaines, bah voilà, ça reste là, quoi, malgré tout.
Ouais, le lien reste, en fait, parce que vous avez partagé quelque chose de fort, d'intense, et tu sais en tout cas que c'est des personnes ressources que tu peux mobiliser quand t'as besoin, quoi. Donc ça c'est chouette.
Ouais, et ça vraiment, enfin, on parlait de conseils, moi je trouve vraiment trouver des pairs, quoi, trouver des pairs PAIR dans lesquels vous reconnaissez, qui vous inspire, qui vous tire vers le haut, quoi, d'une certaine façon, parce que ça c'est un super appui à avoir. Et moi je suis ultra reconnaissante d'avoir différentes communautés comme ça où je me dis c'est top, quoi, j'ai des personnes sur lesquelles m'appuyer, à qui je peux demander, aussi des personnes où vous baissez le masque, quoi, d'une certaine façon, où vraiment vous êtes comme vous êtes. Surtout quand dans l'histoire entrepreneuriale, il y a toujours ce côté où tout le monde essaye de montrer que le côté bling bling, tout va bien, etc. C'est bien aussi d'avoir des espaces où juste on dit là ça va pas, et ça fait je sais pas moi 4 mois que je me motive pas sur mes sujets, ou je sais pas, par exemple, que je suis un peu éco-anxieuse. Il y a des personnes, il y en a qui ont dit ça, qui disaient ben là dans mes engagements j'ai du mal à avancer parce que je sens une anxiété, ce qu'elle en est, et pourtant je continue à devoir parler devant des médias, de ultra motivée de ce que je fais, parce que on est dans un boulot de convaincre. Dès qu'on est sur des sujets de la transition écologique ou solidaire, on est toujours dans ce truc où on essaye de tirer les autres vers ça, de les amener vers ça. Sauf que soit quand on n'a pas l'énergie, ben c'est dur. Donc c'est bien d'avoir un espace repos où on peut avoir ça. Et un peu dans la continuité de ce conseil, je dirais du coup, allez contacter des gens qui vous inspirent très souvent. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est inaccessible, des gens qu'on regarde, je sais pas moi, on va lire un article sur internet, on va regarder une vidéo qui sont faites, des choses comme ça. Très souvent, ces gens sont assez ouverts à discuter, à échanger. Donc, c'est pas rare. Moi, des fois, je reçois des mails disant j'aimerais vraiment parler de ce que vous faites, de vos engagements. J'ai l'impression que ça résonne avec des envies que je pourrais avoir. Est-ce qu'on pourrait prendre un café ? Enfin, voilà, si je peux, je le fais. Il n'y a pas de souci. Si je peux pas, c'est pas une histoire que j'ai pas la volonté. C'est une histoire d'agenda, plutôt, on va dire. Et je pense que tout le monde, c'est ça. Enfin, je me dis, moi, je me suis retrouvée de l'autre côté de la planète à chaque fois, en mode speed, allez, qui sont les gens à rencontrer, à voir, etc. Et ben, en fait, les gens ont toujours ouvert leur porte, ce qui est assez incroyable, quoi.
Ouais, ça, c'est chouette. Et justement, là, tu parlais de personnes ressources. Est-ce qu'il y a d'autres ressources, alors peut-être des bouquins ou des vidéos, des conférences filmées, des choses comme ça, que tu peux conseiller justement pour les personnes qui ont envie de creuser le sujet, alors soit de l'ingénierie positive, ou alors s'inspirer justement de femmes qui prennent la parole sur des sujets d'expertise divers et variés.
Oui, alors, femme inspirante, c'est parti. Alors, femme qui écrit un peu sur le sujet des femmes dans l'ingénierie, plutôt sur le spectre du numérique, il y a Isabelle Collet, qui est assez intéressante, qui est maître de conf à Genève, et qui a pas mal écrit de livres sur ce sujet des femmes dans le numérique. C'est par exemple avec elle que j'ai appris qu'à l'époque, il y avait plus de femmes en informatique que maintenant, et c'est seulement récemment qu'on a moins de femmes. Parce qu'à l'époque, vous voyez, l'informatique, c'était quelque chose qui était un peu... Faut être minutieux pour faire de l'informatique, faut être rigoureux, ça peut être un petit peu répétitif. Finalement, ça ira très bien à des femmes, d'une certaine façon.
D'accord.
Et c'est plus le métier est devenu un métier un petit peu de technicité, de compétence. Ouais. Et plus il y a eu d'enjeux autour du numérique. Aujourd'hui, le numérique est proche du pouvoir, beaucoup aussi. Plus on maîtrise le numérique, plus on arrive à avoir de pouvoir, en simplifiant beaucoup. Ouais. Et donc, petit à petit, ça s'est masculinisé.
Hyper intéressant, j'avais pas du tout notion.
Non, mais on note pour le prochain épisode.
Voilà, En tant que femme experte inspirante, alors récemment j'ai écouté le Thinkerview de Aurore Stéphan, qui est une personne. Alors, elle est à l'asso qui s'appelle Systex, qui creuse des enjeux miniers autour des mines, etc. Elle est elle-même beaucoup allée sur le terrain. Et franchement, c'est un des Thinkerview. Il dure 3 heures, c'est un des plus longs des interviews. Et pourtant, ça s'écoute très, très, très facilement. Et je trouve que voilà, elle a un positionnement très intéressant où il y a un côté d'expertise, clair. Elle sait aussi très bien dire les sujets qu'elle ne maîtrise pas, tout en ayant un côté léger. On va dire, c'est pas le côté je m'impose à la Margaret Thatcher, Angela Merkel, qui sont souvent un peu les modèles qu'on dit de femmes fortes. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment de podcast ou vidéo que j'ai beaucoup aimé récemment en tant que femme inspirante. Après, vraiment, toutes les femmes de Women Act, je pense, on pourra mettre sur notre site tout ce qu'elles font, mais que ce soit Irel, Kwaku, sur des sujets tiers-lieux ou mode qui sont très inspirants. Uyen, dont je parlais, qui est revenue à de la paysannerie, qui a quitté son boulot de juriste pour redevenir paysanne. je trouve ça incroyable. D'ailleurs, un bouquin de cuisine là qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps. Toutes ces femmes de Women Act que je trouve vraiment top. Et quand même, faut le dire, les femmes qui sont à l'Institut Transition sont toutes assez inspirantes. Alors, l'équipe de l'Institut, on a quand même beaucoup de femmes. Avec dans le cœur d'équipe deux garçons un petit peu perdus, Martha et Lucas, qui sont perdus dans notre équipe de femmes. Mais c'est vrai que, clairement, moi, je le dis souvent, le fait d'avoir rejoint le projet de l'Institut Transition, c'est, je pense, intellectuellement, c'est ce qui m'a le plus challengé dans mes différents projets. Parce qu'il y a vraiment des personnes brillantes dans cette équipe. Et des personnes qui font énormément aussi, qui ont une capacité de travail assez dingue. Donc que ça soit Fanny Viry sur ces sujets de solidarité, que ça soit Clémentine Mossé quand même à The Green or Good, qui a une capacité à créer des événements. On fait pas mal de cours aussi avec Clémentine dans des écoles d'ingénieurs, vu qu'elle est ingénieure elle aussi. Et de réfléchir à des formats avec elle, pareil, ça a été top, quoi. Donc vraiment plein de femmes comme ça dans les équipes aussi qui sont assez stimulantes.
Bon bah chouette, finalement on se rend compte qu'en cherchant un peu on en trouve des femmes
inspirantes
et qui sont engagées et qui se bougent quoi, donc c'est chouette. Top, et dont tu en fais partie du coup, c'est Isabelle. Merci. Et merci beaucoup pour ton partage, ton témoignage sur ton parcours, ton expérience, tout ce que tu fais aujourd'hui au quotidien pour la transition écologique. Et on mettra bien sûr toutes les infos que tu as partagées au cours de l'échange dans le descriptif de l'épisode pour que les personnes puissent creuser un petit peu les sujets et s'inspirer comme tu le fais avec nous aujourd'hui. Merci.
Merci à toi. À vous.
Ce que je retiens, c'est l'importance de la communauté. Donc, on l'a déjà dit, mais effectivement, elle a rappelé le fait de s'entourer de personnes, de pairs, avec qui on peut célébrer ses joies, ses réussites, mais aussi tomber le masque et avouer ses faiblesses, ses doutes, pour moi est hyper important. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on entreprend, quand on change de vie, quand on veut, quand on se met dans une position qui est inconfortable finalement, parce que peut-être un petit peu plus périlleuse. Je trouve que c'est hyper important de s'entourer de personnes qui sont qui soient des personnes ressources, des personnes bienveillantes, et qui sont aussi déjà passées par là, par ce qu'on passe. Dans la même veine, elle nous a parlé également d'aller chercher des personnes qui nous inspirent. Je pense que c'est aussi la même idée, d'arriver là, à aller être tiré vers le haut, avoir des rôles modèles, avoir des gens qui soient inspirants dans différents domaines et pas uniquement les domaines dans lesquels on exerce ou dans lesquels on prend la parole, mais dans toutes sortes de domaines, aller chercher des femmes qui nous inspirent. Et la seconde chose que je retiens de cette interview, c'est le fait de finalement de s'assumer pleinement en tant que femme dans un milieu qui est très masculin. C'est un long parcours du combattant, en tout cas de ce que dit la façon dont l'a décrit Isabelle. Ça a l'air d'être un parcours du combattant, mais qui est extrêmement gratifiant à la fin quand on arrive à s'y épanouir et à trouver sa place et sa voix. Et pour Isabelle, finalement, c'est en préparant l'interview aussi qu'elle a prononcé ces mots que je vais reprendre. Elle me disait que pour elle, c'était le fait de s'engager sur des sujets de transition écologique qui l'a finalement réconciliée avec sa féminité. J'ai trouvé cette phrase très forte. Parce qu'elle l'a dit au début de l'interview, elle a plutôt au début mimé les garçons, ou en tout cas voulu faire comme eux dans le début de sa carrière ou même dans ses études. Et finalement, elle s'est trouvée quand elle s'est acceptée en tant que femme, épanouie et qu'elle a su s'écouter.
Oui, alors pour ma part, une des choses qui m'a vraiment marquée et que je trouve assez puissante, c'est tout ce qu'Isabelle nous a partagé sur finalement ces réseaux de femmes, l'entraide entre femmes, la sororité, qui est une notion que je chéris et que je trouve assez puissante, qui permet effectivement de se soutenir finalement quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose. Alors ça peut être effectivement monter sa boîte, ça peut être changer de job, ça peut être réinventer sa carrière, ça peut être opérer un changement de vie effectivement quel qu'il soit, ça peut être aussi un changement de posture quand on décide effectivement de s'assumer pleinement avec sa féminité, sa personnalité, ses talents, ses compétences. Et je trouve ça assez fort d'entendre Isabelle témoigner de ce parcours-là et de ce qu'elle a expérimenté, vécu. Je pense qu'il faut le vivre, effectivement, cette entraide, cette sororité entre femmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant que ça soit entre femmes du même secteur d'activité, mais effectivement, d'avoir aussi un soutien avec des femmes de différents horizons. Je pense que ça amène aussi beaucoup de diversité et ça inspire d'autant plus. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marquée. La deuxième, c'est effectivement aussi de me rendre compte finalement en écoutant Isabelle qu'il y a énormément de femmes talentueuses, compétentes, alors dans le milieu de l'ingénierie déjà, mais pas que, et qu'elles elles connaissent très bien leur sujet, elles maîtrisent la technicité ou elles ont une expertise sur certains sujets, mais que finalement elles sont pas assez visibles, en tout cas clairement c'est ce que j'en pense, et ça peut être effectivement intéressant de chercher des femmes, de découvrir des femmes qui parlent, qui s'expriment, qui travaillent sur des sujets qui nous intéressent, pour s'inspirer de leur travail, mais aussi de peut-être leur posture, leur personnalité. Et ça peut aider effectivement à s'assumer soi et à se dire, bah voilà, il y a plein de femmes qui arrivent à prendre la parole, qui assument leur personnalité, leur posture, et de constater qu'il y a une pluralité de postures et de façons de prendre la parole et de faire sa place dans un secteur d'activité. Ça peut motiver et encourager effectivement à s'assumer pleinement et voilà, à trouver sa voie, sa posture pour avancer et puis contribuer évidemment à une société plus inclusive, tout simplement.
Merci d'avoir écouté Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail.
Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de le soutenir et de le partager est de suivre Néo Travail sur LinkedIn.
Tu peux aussi nous laisser un avis et noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
À bientôt.